Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Philippe Lemonnier. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Lemonnier, donc, vous êtes ici pour nous présenter un ouvrage qui vient de sortir au mois d'avril et qui s'intitule « Inigo, chemin faisant ». Donc, en sous-titre, « Sur les pas d'Ignace Loyola ». On peut peut-être, en préambule, présenter ce personnage. Qui est-il ?
C'est un personnage dont tout le monde ne connaît pas le nom, mais beaucoup de gens connaissent ses œuvres, puisque ça sera le créateur de la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire de l'Ordre des Jésuites.
Vous travaillez essentiellement sur ce qui est de l'ordre du pèlerinage. Et c'est un peu cette optique-là que vous abordez ce livre.
Alors, je travaille sur l'histoire de la marche et sur l'histoire des chemins qui ont un sens. Et donc, bien sûr, que ce soit Stevenson, Compostelle, le Pas des Huneaux, il y avait donc un chemin qui a été ouvert il y a quelques années, pour lequel aucun ouvrage n'avait été consacré. Effectivement, c'est l'histoire du chemin de conversion. Je vais expliquer ça. Le chemin de conversion d'un personnage qui s'appelait Inigo de Loyola et qui deviendra plus tard Ignatius, c'est-à-dire Ignace de Loyola.
Et donc, vous serez aussi présent les vendredis 27 et...
27 avril. Je crois que c'est le 27 parce que c'est la date de la Saint-Georges, qui est la fête de la librairie, où je crois, sans trop m'avancer, je crois que certains libraires, 500 libraires en France, offrent une rose à leurs clientes, au moins à leurs clientes. Voilà. Et donc, à cette date-là, effectivement, je dédicacerai deux ouvrages à la librairie Mosaïque Adi, donc Inigo, chemin faisant, celui qui vient de sortir, et également Le chemin des Huneaux, qui est sorti il y a 2 ans.
On peut rappeler aussi l'époque contemporaine d'Ignace Loyola, qui se déroule au XVIe siècle.
Alors, Ignace de Loyola est né en 1491, c'est-à-dire à un moment, c'est la fin de la Reconquista, c'est le moment où Christophe Colomb découvre l'Amérique. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là. Et effectivement, l'histoire d'Ignace de Loyola, sa conversion commence en 1522, c'est-à-dire à un moment, il est trentenaire.
Et pour vous, quel est cet intérêt d'œuvrer sur cette personnalité ?
Alors, l'intérêt, on pourrait penser que l'intérêt est confessionnel, c'est absolument pas le cas. Mon intérêt, il est double. Il est d'abord parce que c'est un chemin qui est ouvert, et c'est un chemin que cet homme a parcouru réellement en 1522. Et deuxièmement, le second intérêt, c'est que sans juger la portée des actes, ni positivement ni négativement, l'aventure humaine vécue par cet homme m'a beaucoup intéressé.
C'est lui qui a initié en quelque sorte, on peut dire, ce chemin de conversion qui est devenu en fait un chemin de pèlerinage.
Alors, il a ce qui se passe. On va raconter un petit peu la jeunesse de l'histoire. Loyola, qui est un petit, d'abord par sa taille, mais de petite noblesse de Loyola, qui est en fait devenu aujourd'hui un quartier d'Aspecia, qui est une ville du Pays Basque, disons une cinquantaine de kilomètres au sud de San Sébastien. Cet homme rêve de chevalerie. Il est proche des équipes dirigeantes de la royauté. Il dégaine facilement l'arme, l'épée. On peut presque supposer qu'il a peut-être tué au cours d'un carnaval quelqu'un. C'est quelqu'un dont on dit, et je le mets entre guillemets, mais c'est comme ça que c'est rapporté, qu'il culbute volontiers les chambrières dans les escaliers. Et c'est aussi quelqu'un qui est paradoxalement, qui aurait été amoureux de l'infant. Donc voilà, voilà un peu le personnage. Et ce personnage va être à la bataille de Pampelune en 1521, au moment où François Ier souhaite rattacher la Navarre à son royaume. Et à Pampelune, l'armée française est aux portes de Pampelune. Pampelune, la ville par elle-même, se rend. La forteresse aurait eu tendance à faire ça, si ce n'est qu'un certain Inigo de Loyola, qui avait été mandaté par le duc de Narera, dit « Non, on va résister, il faut qu'on résiste, il faut qu'on se batte. » Et cet homme-là recherche l'honneur, c'est la gloire. Il sert un roi et il recherche la gloire. Bon, les choses ne passent pas tout à fait comme il veut, puisque très rapidement, au matin de l'assaut, cet homme va recevoir un coup de boulet qui va lui briser une jambe sans épargner l'autre. Donc, la bataille est perdue, le combat s'arrête et Loyola va rentrer chez lui sur une civière, mourant, accompagné par ses fidèles compagnons basques qui vont le ramener chez lui. Donc voilà, ça c'est la première partie c'est de l'histoire. La deuxième partie se passe dans un lit, puisque Loyola, grièvement blessé, une nuit risque d'y passer. Et finalement, il survit. Et petit à petit, reprenant des forces, il demande à lire sa lecture. Et sa lecture favorite étant les livres de chevalerie, qui pourtant n'était plus complètement encore d'actualité, même si après on verra que Cervantes écrit plus tard sur le fameux Don Quichotte. Et là, bien sûr, il n'y a pas à la maison de Loyola, il n'y a pas de livre sur la chevalerie. Donc, il va se rabattre sur les 3-4 livres qui existent là-bas, c'est-à-dire les Évangiles, l'Imitation de Jésus-Christ et puis la Vie des Saints. Sûrement, on peut penser, parce que c'était déjà publié et déjà connu à l'époque, la Légende dorée de Jacques de Voragine. Et là, tout d'un coup, cet homme qui était en quête de gloire de chevalerie lit ses livres et, pas avec moins de vanité, décide qu'il deviendra un saint. Qui veut vivre la vie des saints ? Voilà pour la première partie de son histoire.
Vous vous mettez en avant comme étant laïque. Et quelle est pour vous cette fascination pour ces personnes qui étaient en quête spirituelle ?
Voilà, c'est une question compliquée que vous me posez. La laïcité, effectivement, l'éditeur me présente comme laïque devant l'Éternel. Il connaît effectivement ma foi chrétienne qui est vacillante. Ça, c'est une certitude. Mais ce n'est pas parce que mon orientation d'athéisme, puisque en fait c'est ça, existe. C'est pas pour autant que je n'ai pas d'abord un intérêt très important pour le sacré, qui a donc animé toutes les civilisations, ni un profond respect pour les différentes foies. La seule chose qui peut m'exaspérer, ce sont les dogmes et ce sont les fondamentalistes de trois religions, enfin de toutes les religions, parce qu'il y en a aussi en dehors des trois religions monothéistes, il y a des fondamentalistes. Mais sinon, je pense que la foi, c'est intime et je crois que la majorité des gens ont besoin de cette foi. Et en tous les cas, s'ils n'ont pas que besoin, tous besoin de la foi, tout le monde a besoin de sacré. Voilà. Alors, par contre, ce sacré n'est pas nécessairement obligé de s'exprimer uniquement dans des monothéistes qui ont 2500 à 3000 ans. Alors, peut-être dire quelque chose d'autre en complément de votre première question, ça me semble important, c'est que donc cet homme, parce que c'est là la genèse du chemin, cet homme, quand il commence à être établi, décide donc de vivre la vie des saints et donc décide d'abord qu'il irait à Jérusalem. Et donc, il faut qu'il parte. Et c'est ce chemin-là, en partant de là pour aller jusqu'à Barcelone pour prendre son bateau, que l'on va appeler son chemin de conversion. Parce que cet homme part habillé en petit noble, il part avec son épée de cour, il part avec sa dague de cour. Mais l'homme qui va arriver près de Barcelone, c'est-à-dire à Montserrat, c'est un homme christique. C'est un homme qui est en robe de bure, c'est un homme dont les cheveux ont poussé, c'était un homme qui était très soigné, mais il est très négligé au niveau de ses ongles. Voilà, c'est ce que les jésuites appellent le chemin de conversion de Loyola, et qu'il raconte lui-même dans un livre qui s'appelle « Le récit » ou « Le récit du pèlerin », non pas pour réellement raconter sa vie, parce qu'il s'y est refusé pendant quasiment 60 ans, mais pour édifier ses compagnons, une fois que la compagnie de Jésus a été créée, pour dire « regardez qui j'étais ». Regardez ce que Jésus, le fait de croire en Jésus et le fait de décider de le servir, là où ça m'a amené. Suivez mon exemple.
Ça me fait penser à Job, non, qui se retrouve dépossédé de ses biens et qui se met en état de clochardisation, quasiment.
Alors, ça fait penser à Job, mais ça fait surtout penser, parce que c'est le, je dirais, c'est pour lui l'exemple, c'est à Saint-François. Saint-François qui est plutôt un mauvais garçon, qui va être jusqu'à se retrouver nu et qui à partir de ce moment va être recueilli dans le manteau d'un évêque et qui va devenir le saint que l'on sait ensuite, qui lui aussi, par la pénitence, par la souffrance, effectivement fait son chemin de conversion pour se transformer en un homme de foi et un homme d'église. Pour Loyola, c'est surtout se transformer en un messager de Jésus. Chose qu'il aura beaucoup de mal à faire, parce qu'on va lui interdire de parler à Jérusalem quand il partira, non pas comme il pensait l'année 1522, mais un an après. Les franciscains ou les dominicains, je ne sais plus qui était sur place, mais vont le virer manu militari parce que lui veut parler de Jésus. Et on lui dit, tu n'as pas le droit de parler de Jésus, tu n'as pas l'enseignement pour parler de Jésus. Il arrive en Espagne, il va essayer à nouveau de parler de Jésus, et là, c'est l'Inquisition qui va lui dire la même chose. Et cet homme, donc, qui va avoir, en 1523, va donc avoir 30 et quelques années, va décider, puisque c'en est ainsi, d'aller étudier à la Sorbonne la théologie, la philosophie et les arts pendant une dizaine d'années pour pouvoir parler de Jésus.
Comment avez-vous pratiqué l'élaboration de ce livre ?
Alors, l'élaboration de ce livre, elle s'est faite, je dirais, en plusieurs temps. Le premier temps a été d'acheter des livres que je n'ai pas lus. Ça, c'est une première chose. Je me dis, j'achète toujours les livres avant de partir et je les lis qu'au retour. Ensuite, le deuxième temps, c'était de faire le chemin moi-même, des 700 kilomètres, un chemin qui a été ouvert par les jésuites il y a 4-5 ans. Et donc, de faire ce chemin, ces 700 kilomètres d'une traite, à la recherche de traces de Loyola, à la recherche de traces du XVIe siècle. Qu'est-ce qui reste, à défaut de toucher, de pouvoir trouver toujours des traces de Loyola, même s'il y en a quelques-unes, notamment sa Casa Torre, c'est-à-dire sa maison tour, qui était une maison de défense, c'est de trouver des choses qui existaient au XVIe siècle, savoir où était passé Loyola. Après, au retour, il y a eu donc la lecture d'ouvrages, bien entendu. Mais il y a aussi des rencontres qui ont été, pour moi, édifiantes. Lorsque j'ai fait le voyage qui dure 4 semaines à peu près, j'ai souhaité vraiment voyager 3 semaines tout seul. Bien que j'étais invité par Joseph Luis Ribéry, le père jésuite, qui est à l'origine de l'ouverture du chemin, qui est le directeur du chemin, qui a été, mandaté par le pape directement pour traiter ce chemin de Loyola. Sachant au passage que ce qui est visé, c'est qu'en 2022, c'est les 5 siècles de chemin de conversion de Loyola. Je n'oublierai pas de vous parler des exercices spirituels de Loyola. Il ne faut pas que j'oublie, c'est un point important de l'histoire. Et donc, la dernière semaine, j'ai donc voyagé avec ce prêtre jésuite, avec cet ami, parce qu'on est vraiment devenus amis, comme quoi les divergences de foi ne posent pas vraiment de problème à certaines personnes. Lui marchait avec des retraitants pendant une semaine, des gens qui venaient alors essentiellement d'Australie et des États-Unis. Et nous avons beaucoup sympathisé, plus que la sympathie, mais nous avons beaucoup parlé. Et lui m'a beaucoup appris sur Loyola, beaucoup appris sur le chemin de conversion de Loyola, beaucoup appris sur la pensée de Loyola et beaucoup appris à tenter d'approcher ce que sont les exercices spirituels de Loyola, qui sont un point important pour les jésuites, un point important pour Ignace, et qui est en fait le livre le plus proche de son chemin de conversion, puisqu'il va l'écrire au bout de ses 27 jours de marche et pendant un an, réfugié dans une grotte à Loyola, Donc, excusez-moi, à Manresa, près de Barcelone. Et c'est là qu'il écrit ses exercices spirituels. Et aujourd'hui, cet ouvrage, vous avez quasiment dans n'importe quelle librairie. Il existe en plusieurs versions de poche. Et c'est toujours un ouvrage qui est écrit. C'est toujours un enseignement qui est dispensé aux jésuites. Et c'est toujours un enseignement qui est dispensé à toutes les personnes qui étudient chez les jésuites.
Justement, les escales de ces marches se situent dans quel type de lieu ?
Alors, les escales qu'on a pu retrouver, c'est en fait les villes. Puisque son chemin, globalement, il faut quand même raconter en quelques mots comment il part. Lui, il part du Pays Basque, donc il traverse le Pays Basque du nord au sud. Et ensuite, il va prendre ce qu'on appelle le Camino Real, c'est-à-dire qui était à l'époque la route royale. En fait, qui est la route royale qui va de Galice jusqu'à Barcelone et qui traverse la Navarre, l'Aragon qui arrive en Catalogne. J'ai oublié une province, excusez-moi, je ne sais plus laquelle, mais j'ai oublié. Donc, en fait, uniquement sur le Camino Real. Alors, bien sûr, aujourd'hui, le Camino Real, c'est devenu la nationale, voire la 4 voies. Et donc, il existe, qui a été tracé en parallèle, un chemin qui passe sur des pistes agricoles qui sont assez importantes en Espagne et qui, effectivement, est balisé. Et quant aux villes, ce sont les grandes villes qui existent dessus. C'est La Guardia, c'est Logroño, c'est Saragosse, et c'est Montserrat, qui n'est pas une grande ville, mais qui est un haut lieu de la chrétienté.
À l'époque de ces premières marches, il y avait donc dans ces villes un endroit où les personnes pouvaient s'enrichir spirituellement et culturellement. Et est-ce qu'il y avait des choses données à ces personnes ?
Alors, il y avait ce genre d'endroit, effectivement, dans toute l'Europe médiévale. Mais là, Loyola, c'est un petit peu différent. Il ne raconte pas très bien. C'est pour ça, d'ailleurs, ça m'a intéressé. C'est que lui, il raconte 27 jours en 3 pages. Et que, à ma connaissance, il y a eu de multiples ouvrages biographiques sur Ignace de Loyola, sur sa vie, sur son œuvre, sur la Compagnie de Jésus, sur ses écrits. Mais il n'y avait pas de livre qui retraçait uniquement les 27 jours de son chemin de conversion. Mais Loyola n'a pas trop de problèmes, me semble-t-il. Il faudrait lui poser la question. Mais dans la mesure où c'est un petit noble, il a des contacts et il va se dépouiller réellement de ses âmes qu'à Montserrat. Donc après un long processus de réflexion, de marche. En fait, en réalité, pour être honnête, même si Loyola va beaucoup marcher en Europe, j'ai calculé tous ses allers-retours à la Sorbonne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Belgique, et rien que sur ses principaux voyages, je ne parle même pas de sa marche de tous les jours, il a fait plus de 10 000 km à pied. Par contre, son chemin de conversion, compte tenu qu'il est toujours blessé, il sera sur un animal à 4 pattes. Je dis ça pourquoi ? Parce que certains disent que c'est un palefroid, d'autres que c'est un cheval neuf, d'autres disent que c'est un mulet. Donc on ne sait pas très bien là-dessus ce que c'est. Ce qui est certain, c'est que Loyola, avec son titre, même si c'est pas qu'il se cache, il peut pas se cacher. Il ne peut pas se cacher parce qu'il a encore cette idée que l'honneur de la famille Loyola, même si après, à Montserrat, il va vraiment se dépouiller, mais jusqu'à Montserrat, il est sur le point de respecter l'honneur de la famille Loyola. Donc, il va être hébergé un coup chez le duc à Navarrete. Il va être hébergé ailleurs à l'évêché. Bon, voilà. Donc, il a un certain nombre de contacts et il a aussi une bourse qui existe à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'il peut aller à l'hôtel.
Existe-t-il différentes écoles, justement, de marche ou de pèlerinage ?
Différentes écoles. Je vais essayer de répondre, mais de façon indirecte à votre question. En 2 points, j'espère que je n'oublierai pas le deuxième point quand j'aurai traité le problème. Les pèlerinages donc ont une signification. Le mot pèleriner, qui a longtemps voulu dire comme pérégriner celui qui voyage en dehors de son champ, c'est-à-dire l'étranger, a pris une signification dont une définition universelle a été donnée, qui me satisfait, qui je pense correspond assez, qui est faire un chemin plus ou moins long vers un lieu sacré, avec une attente. Bon, ce qui est, en fait, petite parenthèse, la métaphore à la fois de l'exode du peuple juif, Et également, c'est la métaphore de la vie. La vie est un chemin plus ou moins long, qu'on va vers un lieu sacré qu'est la mort, avec une attente ou une autre attente, ou non-attente, selon la foi, le type de foi que l'on a. La deuxième réflexion, c'est que donc, il a été montré à travers les récits, et je pourrais en raconter un certain nombre, que le voyage à pied, quelle que soit la raison pour laquelle on part, est un voyage initiatique, toujours. Au long cours, je parle pas de partir une semaine. Que ça soit effectivement pour des pèlerinages au sens où on l'entend confessionnel, que ça soit des évasions, que ça soit des exils, que ça soit des défis. L'homme qui part seul au long cours à pied, il va se retrouver à un moment confronté à lui-même et c'est ça qui va faire la force initiatique du voyage. On peut citer de manière tout à fait laïque de grands voyageurs à pied qui étaient des initiés pour la plupart, qui étaient les compagnons de Tour de France, qui partaient marcher en France 5 à 7 ans, jusqu'à Agricole-Perdrier, à Vignolles-la-Vertu, qui, sans avoir rien demandé à personne, est élu à main levée député à Paris et député à Avignon, alors qu'il part d'Avignon à 20 ans. C'est un type qui ne sait ni lire ni écrire au départ, qui commence son enseignement de menuisier. Donc le voyage à pied est initiatique. Ensuite, peut-être préciser que, encore une fois, parce que ça c'est important, dans toutes les religions, dans toutes les civilisations, il y a des pèlerinages. Ce n'est pas que le monothéisme ni l'Europe. Hein. Au Japon, il y a de très grands pèlerinages. En Inde, c'est le plus grand pèlerinage, celui du Gange. C'est des millions de personnes. Nous, on a des petits pèlerinages en Europe. Hein. Donc, la Mecque est un grand pèlerinage aussi. Voilà. Alors, ce qu'il y a pour apporter la deuxième réponse, je n'ai pas oublié la deuxième réponse, c'est qu'effectivement, dans notre civilisation chrétienne, il est assez... souvent, on a créé des légendes, et je vais expliquer ce mot-là après, autour des saints, en essayant de reprendre ou de reconstituer le chemin des saints. Il faut dire qu'on est quand même, on est quand même dans une civilisation où... Alors, civilisation judéo-chrétienne, j'entends par là, non pas seulement le côté confessionnel, parce que effectivement, la foi n'est pas donnée à tout le monde en Europe, ou tout au moins elle ne l'est plus, mais c'est aussi une civilisation culturelle. On est dans cette culture, on est dans la culture du livre, enfin du livre de la Bible. Voilà. Et comment essayer de dire ça? L'incident d'hier, enfin l'accident, enfin la catastrophe, parce que pour moi c'était une catastrophe de Notre-Dame de Paris qui a brûlé, a bien montré que quelque chose entre qui relève de, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, mais qui relève bien plus d'ailleurs du culturel que du cultuel, a fédéré les gens. Or, je reviens à mon précédent propos, les chemins ou l'histoire de ces hommes, de ces saints, et là, j'allais dire Dieu sait qu'ils sont multiples, a toujours fasciné, d'ailleurs ça a beaucoup, toujours fasciné plus la population que l'Église. L'Église, au sens général, fait souvent bonne fortune contre mauvais cœur face au pèlerinage. Elle n'aime pas tellement les initiatives populaires, mais seulement comme elles prennent de l'ampleur, pour ne pas être exclu, elles le suivent.
J'espère
que j'ai répondu comme ça à la question.
Je me trompe, ou alors est-ce que le pèlerinage ou le chemin de conversion est aussi la construction et l'affirmation d'un individu?
Ah ben, absolument. Disons que le chemin de conversion, on en parle pour des gens qui se sont... alors la conversion, je vais peut-être l'expliquer, parce que moi-même, je me suis fait expliquer. Ignace de Loyola, quand il se convertit, il ne se convertit pas à la chrétienté, ou pas plus au catholicisme, puisque Loyola fait son chemin en 1522. Ne pas oublier qu'en 1517, Luther... placarde ses 95 propositions sur l'église de Wittenberg. Donc, c'est le début de la réforme. Donc, il ne se convertit pas à une religion ou une autre. Il est chrétien. Ce qu'il a, la conversion, c'est la conversion où il va dédier sa vie à autre chose qu'à lui-même, pour la dédier à se convertir et la dédier à sa foi. et à Jésus. C'est ça, sa conversion. Avec une autre, avec un autre paramètre concernant Loyola, c'est que toute sa vie, il va chercher à distinguer d'abord le bien du mal dans ses actions, qu'est-ce qui peut servir, mais plus encore, dans ce qui est bien, dans des actions du bien, il va chercher à discerner quelle est la meilleure action pour servir son maître, qui n'est plus un maître temporel tel qu'il l'a été pendant 30 ans, mais qui devient un maître intemporel.
Au-delà de ça, donc, Philippe Lemoynier, vous êtes un praticien de la marche. Pour vous, est-ce que la marche est-elle une école proprement dite? Et est-ce qu'elle peut être aussi adaptable de nos jours?
Là, c'est une vaste question à me poser. Alors, je ne sais pas si je suis de l'école de la marche. Ce que je sais, c'est que je suis un voyageur à pied. Que ma passion depuis quasiment que je suis gamin, parce que je marche depuis 1965, enfin, je marche tout seul depuis 65, ma passion est pour le voyage. Le fait d'y aller à pied, c'est que je retrouve le rythme primordial de l'homme en marchant à pied et je vois les choses. Si vous faites Paris, Marseille en TGV, vous allez dire je suis un voyageur. Non, vous êtes un voyager, vous n'êtes pas un voyageur. Si je le fais à pied, je suis un voyageur. Là, ce que beaucoup de gens oublient aujourd'hui, ou tout au moins ils n'oublient pas, peut-être parce qu'ils n'y pensent pas, c'est que ceux qui fondent, à mon sens, hein, bien sûr, ça n'engage que moi, ceux qui fondent notre humanité, c'est notre bipédie. Or, nous sommes des bipèdes depuis... Alors, les chiffres sont en train de varier, mais enfin, entre 2 millions et 3 millions d'années, la bipédie permanente nous est acquise. Cette bipédie, nous l'avons exercée quasiment à 100%, à quelques exceptions près. Tout le monde peut me parler des chevaux, des coches d'eau, mais c'était marginal. Nous l'avons exercée jusqu'au milieu du 19e siècle, jusqu'à l'avènement du chemin de fer. Et c'est depuis l'avènement du chemin de fer, depuis l'avènement de l'automobile, des autocars, après ensuite des avions, qu'on se pose la question, est-ce que je vais aller à pied ou est-ce que je vais aller autrement? Donc, pour moi, ce qui nous fonde, c'est le voyage à pied, c'est la marche, et non pas les autres modes de transport. Les autres modes de transport étant effectivement, je dirais, des palliatifs, même si aujourd'hui, et on le voit bien avec, dans les provinces, notamment suite à l'augmentation du carburant et la manifestation des gilets jaunes, on voit bien que l'organisation de nos sociétés ne permet pas réellement d'exercer la marche au quotidien. Or, l'art de marche devient donc quelque part, même si je le regrette, uniquement, a priori, arrangé dans la case agrément. Voilà. Hier, c'était les plus pauvres qui marchaient. Aujourd'hui, on paye presque pour marcher. Ceci étant, je ferai une restriction quand même. Je suis en train de parler comme un occidental. Or que dans le monde, aujourd'hui, des tas de gens en Afrique, pour aller chercher de l'eau tous les jours, des femmes font 10 à 15 kilomètres. En Asie, en Amérique du Sud, des gens marchent tous les jours pour survivre, pour manger, pour aller boire. Bon, voilà. Voilà un peu le comment je considère la marche, qui est pour moi vraiment, si on arrivait, mais c'est de l'utopie, à mesurer, revenir à la mesure du pas de l'homme, je pense que l'humanité irait peut-être dans une autre direction qu'aujourd'hui.
Voilà, toutes ces choses dites, on peut les retrouver aussi sur cet ouvrage donc de Inigo, Chemin faisant.
Absolument, voilà. Oui, on retrouve l'essentiel de ce... Enfin, plus que l'essentiel, là, je dirais, nous avons dit l'essentiel. On retrouve le détail de ce que je viens de raconter, y compris sur les pèlerinages, y compris sur la confession, y compris sur la conversion, le chemin de conversion, y compris sur les exercices spirituels, et puis y compris aussi, c'est une aventure humaine que non seulement qu'a vécu Ignace de Loyola, mais ne pas oublier que je l'ai vécu aussi, ce voyage de 30 jours.
Philippe Lemoynier, vous donnez donc rendez-vous samedi 27 avril à la librairie Mosaïque. À quelle heure c'est ?
Je crois que c'est à partir de 10h, mais ça sera affiché partout dans Die. La Die étant quand même trois rues, donc je pense qu'on va trouver, les auditeurs trouveront l'information.
Et puis je rappelle aux auditeurs que vous êtes déjà intervenu lors d'interviews où vous présentiez différents types de marches qu'on a pu connaître dans l'histoire. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée.
Eh bien, moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli.
Au revoir.
Au revoir.
Okay. The bird.